Chapitre 26. La fille qui venait d'ailleurs. Ceux qui tombent entraînent souvent dans leur chute ceux qui se portent à leur secours. Stefan Zweig. Clinique de l'hôtel, 8h du matin.
Hé, ce n'est pas en ronflant comme une orque que tu vas veiller sur moi ?
J'ouvris les yeux en sursaut. Le corps recroquevillé sur l'accoudoir d'un fauteuil en chêne, j'avais le dos scié, le thorax compressé et les jambes parcourues par des fourmillements. Billy était assise dans son lit. Son visage crayeux avait repris quelques couleurs, mais ses cheveux avaient encore blanchi. En tout cas, elle avait retrouvé une certaine verve, ce qui était plutôt bon signe. « Comment te sens-tu ?»«
Bien, Patrak, » avoua-t-elle en me tirant une langue redevenue rose. « Tu veux bien me donner un miroir ?»«
Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. » Comme elle insistait, je fus obligé de lui tendre la petite glace murale que j'avais décrochée dans la salle de bain. Elle se regarda avec effroi, releva ses cheveux, les écarta, les ébouriffa, scruta leurs racines, terrifiée de voir qu'en une seule nuit, son insolente chevelure d'or s'était transformée en coiffure de grand-mère.
« Comment est-ce possible ? »
demanda-t-elle en essuyant une larme qui coulait le long de sa joue. Je posai ma main sur son épaule. Impuissant à lui fournir la moindre explication, je cherchais des paroles réconfortantes lorsque la porte de la chambre s'ouvrit pour laisser place à Milo, accompagné du docteur Philipson. Une pochette sous le bras, la mine préoccupée, celui-ci nous salua brièvement et se plongea un long moment dans l'étude des constantes de sa patiente affichée au pied du lit. « Nous avons le résultat de la plupart de vos analyses, mademoiselle », annonça-t-il au bout de quelques minutes, levant vers nous un regard où l'excitation se mélangeait à la perplexité. Il sortit de sa blouse un stylo feutre blanc et installa le petit tableau translucide qu'il avait apporté avec lui. « D'abord, » commença-t-il, tout en gribouillant quelques mots, « la substance noire et pâteuse que vous avez rejetée est bien de l'encre à huile. On y a retrouvé des traces caractéristiques de pigments de couleur, de polymères, d'additifs et de solvants. » Il laissa sa phrase en suspens, puis demanda sans détour « Avez-vous cherché à vous empoisonner, mademoiselle ?»«
Absolument pas, » s'insurgea Billy.
« Je vous pose la question parce que, pour être honnête, je ne vois pas comment on pourrait régurgiter une telle matière sans l'avoir ingurgitée auparavant. Ça ne correspond à aucune pathologie connue. »
Qu'avez-vous trouvé d'autre ? Demandai-je pour avancer.
Mortimer Philipson nous tendit à chacun une feuille remplie de chiffres et de termes que j'avais entendus dans « Urgence » ou « Grey's Anatomy », mais dont j'ignorais la signification exacte. NFS, iono, urée, créatinine, glycémie, bilan hépatique, hémostase.
Comme je le pensais, le bilan sanguin a confirmé l'anémie,
expliqua-t-il en inscrivant un nouvel item sur le tableau.
Avec un taux d'hémoglobine de 9 grammes par décilitre, vous êtes bien en dessous de la normale. Cela explique notamment votre pâleur, votre grande fatigue, vos maux de tête, vos palpitations et vos étourdissements.
Et cette anémie, ça traduit quoi ? Demandai-je.
Il faudra faire d'autres analyses pour le déterminer, expliqua Philipson. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus.
J'avais les yeux fixés sur le résultat des analyses sanguines, et sans rien y connaître, je voyais bien, moi aussi, qu'un chiffre était anormal. C'est le taux de glycémie qui cloche, n'est-ce pas ?
Oui, approuva Mortimer. 0,1 g par litre, c'est une forme d'hypoglycémie sévère inconnue.
Comment ça, inconnue ? S'inquiéta Billy.
On est en hypoglycémie lorsque le taux de sucre dans le sang est trop bas, expliqua sommairement le médecin. Dans le cas où le cerveau ne peut pas obtenir suffisamment de glucose, on ressent des vertiges et de la fatigue. Mais votre taux à vous, mademoiselle, est hors norme.
Ce qui signifie ?
Ce qui signifie qu'à l'heure où je vous parle, vous devriez être morte ou du moins plongée dans un profond coma.
La voix de Milo fusa avec la mienne. Il doit y avoir une erreur. Philipson secoua la tête.
Nous avons refait les analyses 3 fois. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas le plus mystérieux.
De nouveau, il ouvrit son feutre blanc qu'il laissa pointer en l'air.
Cette nuit, une jeune interne dont je supervise le doctorat a pris l'initiative de faire une spectrographie. C'est une technique permettant d'identifier des molécules par la mesure de leur masse et de caractériser leur structure chimique.
Bon, venez-en au fait, le coupai-je.
La spectro a montré la présence d'hydrates de carbone anormaux. Pour être plus explicite, mademoiselle, vous avez de la cellulose dans le sang.
Il inscrivit le mot « cellulose » sur son tableau transparent.
« Comme vous le savez sans doute, »
reprit-il,
« la cellulose est le principal constituant du bois. Le coton et le papier en contiennent également une part importante. »
Je ne voyais pas du tout où il voulait en venir. Il précisait sa pensée en nous posant une question.
« Imaginez que vous avaliez des tampons de coton. Que se passerait-il à votre avis ?»«
Sans doute pas grand-chose, » affirma Milo. « Nous les évacuerions en allant à sel. »
« Absolument, » approuva Philipson. « La cellulose n'est pas digérée par l'homme. C'est ce qui nous différencie des animaux herbivores comme les vaches ou les chèvres. »
« Si j'ai bien compris, » dit Billy, « le corps humain ne contient normalement pas de cellulose, donc... »«
Donc, »
termina le médecin,
« votre composition biologique n'est pas celle d'un être humain. Tout se passe comme si une partie de vous était en train de devenir végétale. »
Il laissa planer un long silence, comme s'il avait lui-même du mal à admettre les conclusions des examens qu'il avait réclamés. Il restait une dernière feuille dans sa pochette, le résultat des analyses des cheveux blancs de la jeune femme.
Il contient une très forte concentration d'hydrosulfite de sodium et de peroxyde d'hydrogène, plus connu sous le nom
d'eau oxygénée, devinai-je.
À la base, compléta le médecin, cette substance est naturellement sécrétée par le corps humain. Avec la vieillesse, c'est elle qui est responsable du blanchissement de nos cheveux, en inhibant la synthèse des pigments qui leur donnent leur couleur. Mais c'est normalement un processus très progressif, et je n'ai jamais vu la chevelure d'une personne de 26 ans blanchir en une nuit.
« C'est irréversible ?» demanda Billy.
Bredouilla Mortimer. « On a parfois assisté à une recoloration partielle après la guérison de certaines maladies ou l'interruption de traitements agressifs, mais... j'avoue que ça reste des cas isolés. »
Pensif, il regarda Billy avec une compassion non feinte et reconnut devant nous.
« Votre pathologie dépasse clairement mes compétences et celles de cette petite clinique, mademoiselle. Nous allons vous garder en observation aujourd'hui, mais je ne saurais trop vous conseiller de vous faire rapatrier le plus tôt possible dans votre pays. »
Une heure plus tard, nous restâmes tous les trois dans la chambre. Après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, Billy avait fini par s'endormir. Affalé sur une chaise, Milo terminait le plateau repas qu'avait refusé Billy tout en ne quittant pas des yeux le tableau oublié par le médecin. Pigments de couleur, solvants additifs, anémie, cellulose, eau oxygénée, hydrosulfite de sodium.
« J'ai peut-être une piste !» dit-il en se levant soudainement.
Il se planta à son tour devant le tableau, se saisit du feutre et dessina une accolade pour relier les deux premières lignes.
« Cette espèce d'encre grasse et visqueuse qu'a vomi ta copine, c'est celle qu'utilisent les rotatives dans l'édition, en particulier dans le système d'impression de tes livres. »«
Ah bon ?»«
Et la cellulose, c'est le premier constituant du bois, on est d'accord ? Et le bois sert à fabriquer ?»«
Des meubles ?»
« De la pâte à papier !»
rectifia-t-il en complétant les annotations du docteur Philipson. « Quant à l'eau oxygénée et à l'hydrosulfite de sodium, ce sont deux produits chimiques que l'on utilise pour blanchir... le papier, n'est-ce pas ?» Pour toute réponse, il tourna vers moi le panneau transparent. « Pigment de couleur plus solvant additif égale encre. Anémie plus cellulose égale papier. Eau oxygénée plus hydrosulfite de sodium égale agent blanchisseur. »
« D'abord, je n'ai pas voulu te croire, Tom, à propos de cette histoire d'héroïne de roman tombée d'un livre. Mais je suis bien obligé de me rendre à l'évidence. Ta copine est en train de redevenir un personnage de papier. »
Il resta un instant les yeux dans le vague avant de terminer ses gribouillages. « Agent blanchisseur plus papier plus encre égale livre. »
« Le monde de la fiction est en train de reprendre ses droits, » lança-t-il en conclusion.
À présent, il déambulait dans la chambre en faisant de grands gestes. Je ne l'avais jamais vu si agité.
« Calme-toi, »
le tempérai-je. « Qu'entends-tu exactement par là ?»«
C'est évident, Tom. Si Billy est un personnage de papier, elle ne peut tout simplement pas évoluer dans la vie réelle.
Comme le poisson ne peut pas survivre hors de l'eau. »
« C'est ça. Souviens-toi des films de notre enfance. Pourquoi E.T. l'extraterrestre tombe-t-il malade ?»«
Parce qu'il ne peut pas rester longtemps éloigné de sa planète. »
Pourquoi la sirène de Splash ne peut-elle pas demeurer sur Terre ? Pourquoi l'homme ne peut-il pas vivre dans l'eau ? Parce que chaque organisme est différent. et ne s'adapte pas à tous les environnements. »
Son raisonnement tenait la route à une exception près. « Billy vient de passer 3 jours avec moi, et je peux t'assurer qu'elle pétait le feu, et que la vraie vie ne lui était pas du tout désagréable. Pourquoi a-t-elle sombré de façon aussi soudaine ?»«
C'est vrai que ça reste un mystère, »
concéda-t-il. Milo aimait la logique et la rationalité. L'air renfrogné, il se rassit sur sa chaise et croisa les jambes avant de repartir dans ses pensées.
« Il faut raisonner à partir de la porte d'entrée, »
marmonna-t-il,
« la brèche par laquelle un personnage de fiction a pu pénétrer dans notre réalité. »
« Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Billy est tombé d'une ligne au milieu d'une phrase inachevée, » expliquai-je en employant la formule qu'elle avait elle-même utilisée lors de notre première rencontre.
« Ah oui, la série de 100 000 livres dont la moitié des pages n'a pas pu être imprimée. C'est ça, sa porte d'entrée. À propos, il faudra que je m'assure qu'ils ont bien été pilotes. »
Il resta la bouche ouverte au milieu de sa phrase, puis se rua sur son téléphone portable. Je le vis faire défiler des dizaines d'emails avant de mettre la main sur celui qu'il cherchait.
« À quelle heure Billy a-t-elle eu ses premiers signes de malaise ?»
demanda-t-il sans lever les yeux de son écran. « Je dirais aux alentours de minuit, lorsque je suis revenu dans la chambre. »
« En heure de New York, ça fait 2 heures du matin, c'est ça ?»«
Oui. »
« Alors je sais ce qui a déclenché sa crise, »
affirma-t-il en me tendant son iPhone. Sur l'écran, je parcourus le mail envoyé à Milo par mon éditeur. Mail de Robert Brown à Milo Lombardo. 9 septembre 2010. Objet : confirmation de destruction de stock défectueux. Cher monsieur, je vous confirme la destruction totale par pilonnage de l'intégralité du stock défectueux de l'édition spéciale du 2e tome de la Trilogie des Anges de Tom Boyd. Nombre d'ouvrages détruits, 99 999. Opération réalisée ce jour, sous contrôle d'huissier, de 20h à 2h à la station de pilonnage de l'usine Shepard de Brooklyn, New York. Meilleure salutation, R. Brown.
Tu as vu l'heure du mail ?
Oui, acquiesçai-je. Ça correspond parfaitement avec celle de son malaise.
Billy est physiquement relié aux exemplaires défectueux, martela-t-il.
Et en les faisant disparaître, on est en train de la tuer. Nous étions tous les deux surexcités et terrifiés par notre découverte. Surtout, nous nous sentions démunis face à une situation qui nous dépassait. Si nous ne faisons rien, elle va mourir.
Qu'est-ce que tu veux faire ?
Me demanda-t-il.
Ils ont détruit tout le stock.
Non. Si c'était le cas, elle serait déjà morte. Il reste au moins un livre qu'ils n'ont pas pu pilonner.
« L'exemplaire que l'éditeur m'avait envoyé et que je t'ai donné »
s'écria-t-il.
« Mais qu'en as-tu fait ?»
Il me fallut fouiller dans ma mémoire pour m'en souvenir. Je me rappelais l'avoir consulté le fameux soir où Billy était apparu, trempé, dans ma cuisine. Puis le lendemain matin également, un peu avant qu'elle me montre son tatouage. Et puis, j'avais du mal à me concentrer. Dans ma tête, les images affleuraient pour disparaître aussitôt comme des flashs. Et puis, nous nous étions disputés et dans un mouvement de colère, j'avais jeté le roman dans la poubelle de ma cuisine.
« On est vraiment dans la merde !»
siffla Milo, après que je lui eus expliqué où se trouvait le dernier ouvrage. Je me frottai les paupières. Moi aussi, j'avais de la fièvre. La faute à mon entorse dont la douleur devenait presque insupportable. La faute à l'armée de Mexicains qui m'avait tabassé dans le bar près du motel. La faute à mon corps que j'avais sevré de médicaments. La faute à ce coup de poing que m'avait balancé par surprise l'autre allumée du bulbe. La faute à ce baiser inattendu et bouleversant que m'avait volé cette drôle de fille qui dévastait ma vie. Torturé par la migraine, j'imaginais l'intérieur de mon crâne comme un globe terrestre dans lequel bouillonnerait de la lave en fusion. Au milieu de ce bourbier incohérent, une évidence traversa mon esprit.
« Il faut que j'appelle ma femme de ménage pour qu'elle ne jette surtout pas le livre !»
dis-je à Milo. Il me tendit son téléphone et je réussis à joindre Teresa. Malheureusement, la vieille femme m'annonçait qu'elle avait sorti les poubelles 2 jours plus tôt. Milo comprit tout de suite et grimaça. Où était le roman à présent ? Dans un centre de tri de déchets ? Sur le point d'être incinéré ou recyclé ? Peut-être que quelqu'un l'avait ramassé dans la rue ? Il fallait se lancer à sa recherche, mais cela équivalait à chercher une aiguille dans une botte de foin. En tout cas, une chose était certaine, il fallait faire vite, car la vie de Billy ne tenait plus qu'à un livre.